Bonsoir et bon début de semaine à tous. Province de l'Équateur, la crise à l'Assemblée provinciale persiste malgré le limogeage du gouverneur Jean-Claude Baïndé. La tentative de médiation opérée par le vice-président de la CENI, Jacques Ndjoli, avec l'appui de la MONUSCO a échoué. Celle-ci devait aboutir à un accord entre les deux bureaux parallèles de l'Assemblée provinciale. Entre-temps, le ministre de l'Intérieur a désigné le ministre provincial de l'Intérieur de l'Équateur pour assumer l'intérim du gouverneur en lieu et place du vice-gouverneur jugé indisponible selon le ministre Mouyège. Affirmation que le vice-gouverneur rejette. Comment analyser cette situation et que faire pour en sortir? Participe au débat Fabien Munguza, président de la Société civile de l'Équateur. Il est en ligne. Monsieur Munguza, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Gilbert Kiatingé, expert en décentralisation. Maître Kiatingé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il est également en ligne. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean-Rémy de Mbandaka dans la province de l'Équateur. La situation que vit la province de l'Équateur est déplorable. Malheureusement, tout se trame au niveau de Kinshasa. Pour Jean-Rémy, la responsabilité incombe aux notables de l'Équateur. Blanchard Luana de Mongafula à Kinshasa. La solution pouvant définitivement mettre fin à la crise dans la province de l'Équateur est que le chef de l'État use de ses prérogatives reconnues par la Constitution de dissoudre ipso facto cette assemblée provinciale. Merci de nous suivre par son RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
À l'Équateur, la crise à l'Assemblée provinciale persiste malgré le limogeage du gouverneur Jean-Claude Baïndé. La tentative de médiation opérée par le vice-président de la CENI, Jacques Ndjoli, avec l'appui de la MONUSCO, qui devait aboutir à un accord entre les deux bureaux parallèles de l'Assemblée provinciale, a échoué. Les deux parties campent chacune sur leur position. Dans ces conditions, quel bureau devra convoquer et présider les travaux qui devront aboutir à l'élection du nouveau gouverneur de province? La société civile de l'Équateur, qui était associé à cette rencontre, déplore la situation. On écoute Fabien Munguza, président de la Société civile de l'Équateur, au micro de Béatrice Nabinti.
Nous y croyons encore, mais nos élus doivent comprendre qu'une heure de plus dans la crise, pour nous, est de trop et que nous sommes prêts à nous prendre en charge. Nous les avons désignés pour résoudre les nombreux problèmes auxquels nous faisons face. Mais nous avons l'impression que la distraction a trop duré et l'occasion nous est donnée de lancer encore un dernier appel aux réfractaires qui veulent que l'Équateur continue à rester dans la misère, à choisir la bonne direction. Parce que si tel n'est pas le cas, nous allons devoir agir autrement pour reprendre le pouvoir qui est le nôtre parce que nous sommes les souverains primaires.
Et avant de quitter Mbandaka samedi dernier pour Kinshasa, le professeur Jacques Ndjoli, vice-président de la CENI, s'est dit confiant quant à la sortie des crises. On l'écoute une fois de plus au micro de Béatrice Nabinti.
La population de l'Équateur doit garder confiance. Cette population doit continuer à envoyer des messages de soutien à ses élus directs et indirects que sont le gouverneur et le vice-gouverneur pour que nous puissions retrouver une gouvernance normale. Partout dans la République, il y a des assemblées qui ont ouvert. Il faut que l'Assemblée provinciale de l'Équateur s'ouvre et elle doit s'ouvrir.
C'était là le professeur Jacques Ndjoli, vice-président de la CENI. Fabien Munguza, je rappelle que vous êtes vice-président de la Société civile de l'Équateur. Vous déplorez cette situation qui sévit aujourd'hui à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Cela est dû à quoi, selon vous?
Oui, merci madame. Je suis plutôt président de la Société civile de la province de l'Équateur. Cette situation, à notre avis, résulte du fait que notre Assemblée provinciale est instrumentalisé par certaines personnes qui ne veulent pas que la crise que nous avons connue depuis un certain temps puisse prendre fin. Il s'agit manifestement du réseau dont la tête a été décapitée, mais qui est encore en place. Ce réseau-là comporte des agents qui sont à la fois au niveau du gouvernement central et bien évidemment dans la province de l'Équateur. C'est une crise simplement artificielle. Avec un peu plus de volonté, on ne parlerait même pas de bicéphalisme à la tête de l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Alors, dans vos propos, Fabien Mungunza, vous dites que vous allez vous prendre en charge si on n'arrive pas à sortir de cette crise. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, madame, les autorités qui nous gouvernent ont été désignées directement ou indirectement par nous. Ils ont reçu mandat de notre part. Le mandat revient au souverain primaire qui est le peuple. Mais dès lors que cette assemblée-là se laisse, n'est-ce pas, bloquée par une petite minorité, madame. Même lorsque vous dites que la mission vice-président Djuria a échoué, je ne suis pas complètement d'accord. Sur le plan sociologique, les députés qui s'opposent obstinément à l'accord aujourd'hui ne sont plus que 5. Prenez une assemblée qui compte 108 députés. Il n'y a que 5 qui continuent à s'y opposer. Est-ce qu'on peut dire que la mission Djuria a échoué? Parce qu'au départ, ils avaient été 17. Mais 12 seront décidés par un sursaut de patriotisme. Étant donné que la crise a trop duré, ils ont décidé de rejoindre les camps qui s'est nommé Sauvons l'Équateur. Et donc il n'y a plus que 5 députés qui persistent dans cette position-là, parce que manipulés, comme nous avons dit, par le reste, n'est-ce pas, des agents du réseau dont la tête avait été décapitée par l'ordonnance du président de la République.
Alors, vous incombez également la faute à ceux qui veulent que l'Équateur demeure dans la misère. Vous faites allusion à qui?
Au ministre de l'Intérieur du gouvernement central, essentiellement.
Et vous estimez que lui veut que la province de l'Équateur demeure dans la misère?
Oui, madame. Si vous permettez un parallélisme historique,
vous avez des preuves?
C'est comme si nous revenons à l'époque où le Congo était l'État indépendant du Congo belge. Une propriété privée du roi Léopold II, et dont la Belgique, n'est-ce pas, n'avait rien à dire. Maintenant, l'Équateur, c'est comme la propriété privée du ministre de l'Intérieur. Pour lui, la Constitution et les lois de la République ne concernent pas la province de l'Équateur. Parce qu'il s'agit de résoudre nos problèmes, et bien c'est lui qui décide, à travers des lettres administratives, à travers je ne sais quoi encore, qui sont parfois tout à fait contraires à l'esprit et à la lettre de la Constitution et des lois de la République. Donc le problème de l'Équateur, essentiellement, madame, je ne mâche pas les mots, c'est le ministre de l'Intérieur, M. Mouyège.
Alors, il y a cet auditeur, Jean-Rémy de Mbandaka, qui dit ceci: la situation que vit la province de l'Équateur est déplorable. Malheureusement, tout se trame au niveau de Kinshasa. Pour lui, la responsabilité incombe aux notables de l'Équateur. Les notables de l'Équateur sont eux-mêmes responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans cette province.
Non, je lis une certaine contradiction. Parce que quand l'auditeur parle de Kinshasa, en principe, nous sous-entendons les institutions nationales et principalement les gouvernements et le président de la République, les notables de l'Équateur. Mais quel pouvoir légal est-ce qu'ils ont sur l'Assemblée? Ils peuvent peut-être influencer de façon indirecte, mais la décision se prend essentiellement au niveau du ministre de l'Intérieur, qui n'a pas suffisamment montré de compétences vis-à-vis des problèmes de l'Équateur pour que ces problèmes prennent fin. On a comme l'impression qu'il est content de voir cette crise continuer à perdurer.
Alors, Fabien Mungunza, vous incombez la faute au ministre de l'Intérieur, mais on sait que cette crise de l'Équateur a commencé bien avant que le ministre Mouyège soit nommé.
Oui, elle a commencé certes bien avant. Madame, je vous donne un exemple. Vous parlez de bicéphalisme, n'est-ce pas, à l'Assemblée provinciale de l'Équateur en ce qui concerne les bureaux. Et vous savez, les bureaux auxquels appartient monsieur Mboyo, comment il est entré? Mais ils sont partis. Ils ont occupé ce poste-là par infraction. Ils ont cassé le bureau. Ils s'y sont installés. Et lorsque les légalistes se sont allés voir le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est une réponse laconique qui leur était réservée. La majorité a décidé: que voulez-vous que je fasse? Voilà comment on résout les problèmes de l'Équateur, madame.
Mais le dossier se trouve encore à la justice?
Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme si c'était une politique librement conçue par le gouvernement central, et dont l'épicentre reste le ministre de l'Intérieur. Et donc sa responsabilité est indiscutable, comme on va bien le prouver dans la suite du débat.
Merci Fabien Mungunza. Maître Gilbert Kiatingé, vous êtes expert en décentralisation. Encore une fois, on se retrouve dans ce studio pour parler de la province de l'Équateur. Comment vous analysez cette crise, ce bicéphalisme à la tête de l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Décidément, madame, on ne se fatiguera jamais de parler de la province de l'Équateur qui finalement est en train de s'illustrer par des mauvais exemples, parce que dans le processus de la décentralisation, on a vu des provinces essayer de régler leurs crises internes, mais pour l'Équateur, ça devient récurrent. Et donc, il est bon, comme on dit toujours, au grand mot de grand remède, il est bon qu'on trouve vraiment des remèdes radicaux. Je crois que ce sera la dernière partie de notre émission. Quelles sont les solutions qu'on peut envisager par rapport à cette situation? Mais je crois que la crise, surtout si on commence par l'Assemblée provinciale, la crise au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est due d'une part à la faiblesse de notre justice. Parce que il y a en fait un conflit de légitimité. Il y a bicéphalisme parce qu'il y a un bureau qui se réclame légitime, un autre qui se réclame légitime. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un arbitre qui dise quel est le bureau qui mérite d'être reconnu comme légalement établi. Or, de ce côté-là, nous savons que la justice, c'est vrai, a été saisie, mais que le dossier ne semble pas connaître une issue, et la crise perdure, et comme la politique a horaire du vide, eh bien, chacun veut continuer à se comporter comme étant le bureau légitime. Donc, il y a déjà une part de responsabilité au niveau de la justice.
De la Cour suprême, où le dossier se traite.
C'est à la Cour suprême. Mais je ne suis pas d'accord à ce niveau du débat qu'on impute la responsabilité de cette crise au ministre de l'Intérieur. Parce que dans notre architecture juridique actuelle, eh bien, le ministre n'a aucun rôle à jouer dans la mise en œuvre, dans le fonctionnement des institutions provinciales. Il ne peut pas, par exemple, venir du Kinshasa, arriver à l'Équateur et dire, voilà, le bureau que moi je reconnais comme légal, écrire une lettre, comme il l'a fait pour l'intérim, nous allons y revenir tout à l'heure, et dire, voilà, je demande qu'on installe plutôt le bureau de tel. Et donc, là, au moins, il est en train de jouer à la neutralité, et ça, au moins, c'est dans le cadre de ce que nous savons de la décentralisation. Donc, cette attitude-là est une attitude à encourager. Par contre, s'il y a trouble à l'ordre public, s'il y en a qui en viennent en main, et je crois que là, on peut le voir intervenir. Mais pour autant que cela n'est pas encore arrivé, eh bien, il doit absolument garder cette attitude et chercher à amener ses institutions, à cette institution provinciale, à résoudre son propre problème, parce que nous sommes régi par le principe de la libre administration des provinces. Ça, c'est un principe sacré qui est consacré par la Constitution, qui est consacré par la loi sur la libre administration des provinces.
Par rapport à la médiation qui a échoué, même si Fabien Mungunza estime qu'elle n'a pas totalement échoué, est-ce que c'est le vice-président de la CENI qui devait mener cette démarche?
Bon, parce que c'est dans un cadre plus ou moins formel. Normalement, on n'a pas prévu, hein, parce que ce qui existe, c'est la conférence des gouverneurs, lorsque ce sont les gouverneurs qui sont en jeu. Mais lorsque l'institution est en conflit avec elle-même, eh bien, il faut voir dans son règlement intérieur qu'est-ce qui est prévu. Et lorsque il n'y a rien qui est prévu, c'est la justice qui doit départager les parties. Mais si, dans une mission de bons offices, un haut cadre du pays estime qu'il peut essayer d'apporter sa pierre à la contribution, eh bien, je crois que c'est, il y a rien de mal pour autant que la conclusion qui va déboucher là soit ramenée vers la légalité, qu'elle soit consacrée par une transaction qui va au moins être encadrée par la loi.
Alors, Maître Kiatingé, il y a cet auditeur, Sébastien Itete de Mbandaka à l'Équateur, qui dit ceci: la crise proprement dite n'existe pas à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il s'agit plutôt de la manipulation politicienne des quelques députés provinciaux très minoritaires par certains acteurs politiques du gouvernement central pour leur égoïsme.
Oui, ça c'est tout à fait vrai. L'Assemblée provinciale de l'Équateur est victime de la politique qui a été menée par l'exécutif provincial. Vous savez qu'on vient de mettre ses fonctions le gouverneur de province, mais avant de partir, il y avait une sorte de manipulation des députés, parce qu'ils étaient scindés en deux camps. Il y en a qui étaient vraiment acquis à la cause du gouverneur de province. Il les a utilisés à ses fins. Il les avait, ils étaient de son côté. Et donc, il y avait déjà ce bicéphalisme-là, ceux qui étaient favorables à l'exécutif provincial et ceux qui étaient défavorables. Et c'est un peu cette, parce que souvent, c'est derrière certains intérêts. Les intérêts dont vous ne pouvez pas mesurer ici l'ampleur, parce qu'il y a même des marchés publics qui s'étendent de gré à gré parce qu'on est proche de tel gouverneur ou bien on peut recevoir des fonds pour aller construire telle école. Et donc, il y a des intérêts qui sont groupés autour d'une personnalité. Même après son départ, comme c'est tout un système, il est tout à fait normal que la crise persiste. Et vous allez voir qu'il faut vraiment des solutions radicales. Nous allons y revenir vers la fin de l'émission.
Merci, Maître Gilbert Kiatingé. Professeur Félicien Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur.
Henri Bikoko, j'habite la ville de Mbandaka. Pour décrypter la situation qui se passe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il faut que la Cour suprême de justice.
Alors nous sommes allés un peu vite en besogne. Alain Goy va essayer de nous retrouver cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur. C'est un auditeur qui nous écrit de cette province.
Lele Ndoko de Mbandaka. Il n'y a pas crise à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La constitution de la RDC n'est pas abstraite à cette matière. C'est une mauvaise volonté de la part de Kinshasa à fabriquer des crises pour en faire arriver à une crise persistante. Comme on vient encore d'ouvrir une autre crise en attribuant l'intérim de la province à un ministre provincial en lieu et place des vice-gouverneurs. J'ai dit, l'Équateur n'est pas l'ennemi de la République.
Professeur Félicien Kabamba, Kinshasa est en train de créer des crises dans cette province.
Oui, disons que quand vous écoutez la plupart des auditeurs, il me semble bien que Kinshasa est très épinglé. En soi, la crise dans la province de l'Équateur, parce qu'il faut l'appeler crise, elle date de plusieurs années. Je ne crois pas qu'elle soit née aujourd'hui. Par contre, il y avait à l'époque un gouverneur qui me semblait avoir beaucoup de pouvoir et qui, en son temps, avait essayé d'étouffer cette crise par ses méthodes. Et aujourd'hui qu'il est parti, eh bien, on assiste pratiquement à une pourriture de la crise. De sorte qu'aujourd'hui, on se pose la question, qui va être le pompier? Qui va être les sapeurs-pompiers? Et ça devient très difficile. Parce que là, on se rend compte que le vice-président de la CENI qui part, il rentre bredouille. Eh bien, le ministre prend une décision, des nominations, décision qui est contestée, et du coup, on se retrouve là, dans une autre grande crise créée par l'arrêté du ministre, parce qu'en fait, cet arrêté est contesté, cela génère une nouvelle crise, et il faudra certainement trouver une solution. Ce qui est vrai ici, c'est qu'on assiste là pratiquement à une crise de la démocratie, avec notamment l'inachèvement du processus électoral. Vous savez qu'en 2006, quand les élections étaient organisées, eh bien, on s'est arrêté juste au niveau des élections provinciales. On n'est pas allé au niveau local. Eh bien, quand on organise les élections en 2011, eh bien, on s'arrête. Cette fois-là, non pas seulement au niveau, disons, on ne descend même pas au niveau provincial, mais on s'arrête juste au niveau national. Cela a comme conséquence qu'il n'y a pas eu des élections organisées au niveau provincial et on ne parle pas encore ici du niveau local. Et pourtant, la décentralisation dont on parle a, entre autres, comme objectif de décentraliser les enjeux, donc de délocaliser les enjeux de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers les milieux locaux. Alors aujourd'hui, pratiquement, les enjeux étaient localisés au niveau de Kinshasa et comme il n'y a pas eu des élections au niveau local, eh bien tous les enjeux restent au niveau de Mbandaka. Et tout le monde voudra se retrouver. Quand on sait que cette province est une province qui a d'autres problèmes, parce que vous savez que la province de l'Équateur est une province à nomenclature ethnique assez riche et où existe la logique des terroirs, les terroirs du nord et les terroirs du sud, qui sont très présents dans l'imaginaire collectif. Et du coup, tous les groupes qui se sont tirés absents de ce pouvoir provincial se sentent un peu rejetés. Il y a toutes ces dynamiques-là dont il faut prendre en compte dans l'analyse de la crise qui aujourd'hui sévit assez sérieusement dans la province de l'Équateur. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'une solution doit être trouvée. Mais il faut que Kinshasa ne trouve pas des solutions à la légère. Il faut des solutions réfléchies et mûries, et non des solutions qui doivent être remises en cause demain.
Alors, professeur, par rapport à ce bicéphalisme à la tête de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, et à cet auditeur Willy Eloua de Mbandaka qui dit ceci, le bicéphalisme à l'Assemblée provinciale de l'Équateur ne doit pas être réglé par un conciliabule, comme l'a fait le professeur Jacques Joly entre deux bureaux, mais c'est à la Cour suprême des justices de mettre de l'ordre et de trouver une solution à ce problème.
Bien entendu, il faut que la justice fasse son travail, mais il me semble bien que la population n'a plus confiance en cette justice. Et quel a été le rôle joué par la justice dans la résolution de la crise dans cette province? C'est là aussi la question qu'il faut se poser. Et donc, du coup, là on attend une décision de la justice, de la Cour suprême, eh bien, quel est le crédit que la population va accorder à la décision qui sortira de la justice?
Et selon vous, professeur Félicien Kabamba, qui serait derrière, qui profiterait derrière cette crise à l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Bon, mais il faut dire que la crise dans la province de l'Équateur, elle a des causes qui sont d'abord internes à la province, mais il y a aussi des crises qui sont externes, c'est-à-dire qui viennent de Kinshasa. Et donc, au niveau interne, c'est que les acteurs eux-mêmes ont eu à mener une véritable lutte pour le contrôle de l'État au niveau provincial, et cette lutte a évidemment laissé beaucoup de dégâts. Et bien entendu, dans cette lutte, il n'y avait pas seulement le législatif, il y avait également l'exécutif. Et il y a eu toutes sortes de jeux politiques qui faisaient intervenir tantôt des enveloppes, tantôt des influences de Kinshasa. Et du coup, on a vu également Kinshasa intervenir de temps en temps, avec évidemment le pouvoir de manipulation des acteurs locaux qu'ils ont. Ce qui fait que, évidemment, l'élément interne et l'élément externe a pu, finalement, donner la pourriture de la crise qu'on a aujourd'hui.
Merci, professeur. Nous sommes toujours à l'Équateur. Une lettre signée par le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, en date du 2 avril dernier, a désigné le ministre provincial de l'Intérieur, René-Sébastien Boufaya, pour assumer les charges des gouverneurs des provinces intérimaires jusqu'à nouvel ordre. Dans la même correspondance, le ministre Muyej justifie cette décision par l'indisponibilité du vice-gouverneur de province Vincent Mokako, à qui reviennent les prérogatives d'exercice la fonction des gouverneurs des provinces intérimaires suivant les dispositions constitutionnelles. Depuis Kinshasa, où il se trouve, Vincent Mokako s'est dit surpris par la décision de son ministre des tutelles. Il affirme n'avoir jamais déclaré une quelconque indisponibilité à sa hiérarchie, contrairement à ce qu'indique la lettre du ministre. On écoute Vincent Mokako, vice-gouverneur de l'Équateur, au téléphone de Paul Richard Malengela.
Je ne suis pas du tout indisponible, je suis disponible. Et quand j'étais venu à Kinshasa, je suis en mission, mais c'était pour assumer mes fonctions de vice-gouverneur. Je faisais l'intérim de gouverneur et qui était un peu en difficulté là. Je suis allé à Kananga, je suis rentré à Kinshasa, on a fait tous les travaux. Et certains ministres étaient à Kinshasa avec moi, ils ont vu, je signais des documents pour les comptes de province. On était tous avec les autres gouverneurs. J'ai fait tout ce que devait faire le gouverneur pendant cette période-là. J'ai été surpris moi-même, voir la copie de cette lettre-là, me disant que j'étais indisponible. Donc, je ne suis pas. Donc la réponse que j'ai réservée au ministre, j'ai donné tous les arguments pour dire que je ne suis pas indisponible.
Voilà, c'était là Vincent Mokako, vice-gouverneur de l'Équateur. Contacté par Radio Capi, le cabinet du ministre de l'Intérieur a promis de donner suite à cette situation. Fabien Mungunza, quelle lecture vous faites de cette décision du ministre de l'Intérieur, Richard Muyej?
Oui, madame, cela est démenti cinglant au propos de M. Katinge qui a dit tout à l'heure là que le ministre faisait tout pour garder sa neutralité. Voyez un peu comment il traite l'Équateur. C'est inimaginable, madame. Lui, il a dit exclure la culture du mensonge quand il était venu en mission en Mbandaka. Et maintenant, il est rattrapé par les faits. Comment peut-il inventer une indisponibilité pour les vice-gouverneurs de cette façon-là? Nous disons, le principal acteur de la crise à l'Équateur maintenant, c'est bien M. Muyej. Comment peut-il se permettre, en violation de la Constitution, en violation de la loi,
de désigner un ministre de l'Intérieur en lieu et place du vice-gouverneur tel qu'indiqué par ce texte et même la Constitution qui est la loi fondamentale. Vous savez, madame, si ça avait été le Premier ministre, si ça avait été le Président de la République qui avait agi ainsi, ce serait une infraction de haute trahison. C'est très grave dans un pays qui se veut démocratique. Il ne veut pas répondre, c'est tout à fait normal, mais il va répondre quoi? La situation est totalement claire. C'est le mensonge pur et simple. Et ça a été déniché. Et je crois qu'il est presque temps qu'il puisse se ressaisir et appliquer rien que la Constitution et rien que la loi.
Gilbert Kiatingé, la décision du ministre a-t-elle un fondement juridique? On sait que c'est le vice-gouverneur, normalement, qui doit assumer l'intérim du gouverneur.
Oui, je voudrais d'abord répondre au président de la société civile qui m'a pris à partie. Je crois qu'il ne m'a pas bien saisi. J'ai dit que pour ce qui concerne l'Assemblée provinciale, le ministre s'est bien comporté. En tout cas, il n'a pas voulu interférer. Mais pour ce qui concerne la lettre qu'il vient de signer, je crois que c'est vraiment un recul déplorable. C'est un précédent fâcheux dans le processus de la décentralisation. Je regrette même qu'après la conférence des gouverneurs, où on a pris beaucoup de résolutions qui nous ont rassuré qu'on a la volonté d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de la décentralisation, on se trouve devant des cas comme ça. Parce que, en tout cas, la notion d'indisponibilité, je l'ai cherchée dans toute ma mémoire, dans ma petite mémoire de juriste, l'indisponibilité d'un cadre, même en droit administratif, elle n'existait pas. En droit administratif, un agent est soit en position, en activité, soit en détachement, soit en suspension, soit mise en disponibilité. Mais qu'on dise que quelqu'un est indisponible, je ne sais pas comment on peut trouver des mots, des articles de la loi pour justifier cette lettre. Une décision aussi grave pour un ministre, je crois qu'elle ne devait même pas se prendre par une lettre. Le ministre en droit constitutionnel, il agit par arrêté. Et l'arrêté doit être motivé. Je n'ai pas eu la chance de lire sa lettre. Je ne sais pas si c'est quel acte juridique, dans notre nomenclature des actes juridiques, la lettre d'un ministre, un peu comme on a vu il y a pas longtemps, le ministre agissait par message phonique. Je connais des maires de villes qui ont été remplacés par message phonique du ministre de l'Intérieur. Je crois que notre rôle, c'est quand même de
donc
dire au ministre de faire attention.
Grave,
il n'y a aucun texte qui a été appliqué. Vraiment aucun texte. Parce que il n'y a aucun texte qui prévoit qu'une autorité, comme le vice-gouverneur, qui a été élu par l'Assemblée provinciale, investi par ordonnance du chef de l'État, qu'une simple lettre d'un ministre soit-il, vienne, en fait, le mettre hors de ses fonctions, le placer, en fait, sous la subordination d'un ministre provincial nommé par arrêté du gouverneur. Parce que comment vous allez expliquer, lorsque le vice-gouverneur va se rendre à son bureau, et que ce ne soit pas lui qui dirige la province, qu'il attend des instructions d'un ministre nommé par arrêté du gouverneur, alors que lui, le vice-gouverneur, a été élu et investi par l'ordonnance du président. Je crois que je ne sais pas quelles règles de droit ils ont appliquées, en tout cas, pour amener le ministre à signer pareil document. Je crois qu'il n'est pas tard, il peut toujours rectifier, parce que ce sera un précédent très fâcheux. Demain, on risque d'apprendre si la lettre là subsiste. Qu'on a dit qu'aussi il y a un gouverneur qui est indisponible, bien on confie son intérim, parce que cette notion n'existe pas. Un gouverneur ou un vice-gouverneur est soit est démis à la suite d'une motion de censure, soit qu'il démissionne. Mais on ne peut pas dire, parce qu'il n'a pas été au bureau pendant 2 jours, il est indisponible et son intérim est assumé par quelqu'un d'autre. Non, il y a vraiment
merci,
de choses à dire là-dessus, parce que ça
viole tout le principe. Je vais vous redonner la parole, maître Gilbert Kiatingé. Professeur Félicien Kavamba, cette décision du ministre Mouyège aurait-elle un soubassement politique?
Je crois que, à voir les choses de près, il me semble que le ministre est vraiment dépassé par les événements. La décision me semble avoir été précipitée parce que elle ne répond ni à la logique juridique, encore moins à la logique politique. Parce qu'en fait, dans le cas d'espèce, je ne sais pas si c'est lui qui a pris la décision ou il a exécuté la décision qui lui a été dictée. En tout état de cause, il devait ne fût que respecter la forme et les textes qui régissent le pays. Mais là, il nous semble bien que la précipitation, comme j'ai dit, il semble totalement...
On a un problème avec votre ligne, professeur.
Une décision qui, à notre avis, ne correspond ni à l'éthique politique, ni à la logique juridique.
Il y a cet auditeur, professeur, qui nous écrit de Mbandaka. On a beaucoup d'auditeurs de Mbandaka qui nous ont écrit aujourd'hui. Jean-Marc Mobeka qui dit ceci. La situation politique chaotique de l'Équateur est une comédie de mauvais goût entretenue par ceux-là censés faire appliquer la loi. Sur quelle base juridique le ministre provincial Bofaya a été désigné? Si cette décision est en violation de la loi, quelle pourrait être la sanction réservée au ministre de l'Intérieur? Justice oblige, professeur Félicien Kabamba.
Non, mais je crois que l'a pris, bon, je connais très bien, c'est une lettre ou c'est un arrêté. Je crois que ça n'a pas de fondement juridique et donc peut être attaquable à la justice si évidemment c'est un arrêté. Et donc on peut obtenir son annulation le plus facilement du monde. Mais je pense qu'il y a là une faute politique assez grave dans l'exercice de ses fonctions. Il n'aurait pas pu prendre un tel acte.
Alors professeur, sur le plan politique, cet acte peut-il être justifié?
L'acte
sur le plan politique, je dis, l'acte posé par le ministre Mouyej peut-il être justifié?
Je n'ai pas toutes les informations, parce que quand une autorité politique prend une décision, elle a certainement plus d'informations que moi. Je ne connais pas pourquoi il a pris une telle décision et qu'est-ce qui l'a poussé à écarter la possibilité de confier, évidemment, la gestion de la province à l'intérimaire, qui est l'adjoint, qui devait normalement être l'adjoint. Et donc, quels sont les éléments, quels sont les déterminants? Eh bien, moi, je ne suis pas au pouvoir, je ne connais pas, mais du fait, ce qu'on peut seulement réaliser ici, c'est qu'il y a une violation flagrante de la loi. Et donc, il y a là une faute que je trouve un peu grave dans l'existence de ces fonctions.
Que faire pour sortir la province de l'Équateur de cette situation? C'est la deuxième partie de notre émission. Je rappelle que je reçois dans cette émission pour les débats Fabien Mungunza, président de la Société civile de l'Équateur, Maître Gilbert Kiatsingé, expert en décentralisation, et professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, quelles pourraient être les solutions pour sortir la province de l'Équateur de cette situation?
Je crois que pour sortir de cette situation, il faudra, de la part du ministre, d'essayer de revoir sa mesure. Je crois qu'elle aura comme effet d'apaiser la tension qui, à mon avis, si vous écoutez les intervenants, commence à monter. Donc la réaction du ministre est attendue et je crois qu'elle doit être une réaction qui ne doit pas trop tarder. Mais je crois également qu'il faut que nos amis de la province de Locateur, surtout les députés provinciaux, qu'ils prennent leur destin en main. Parce que pour le moment, si vous écoutez très bien les auditeurs, il me semble bien qu'ils responsabilisent Kinshasa sur ce qui arrive chez eux et donc eux-mêmes n'ont rien à voir. Ce serait, je crois, une lecture assez fausse parce qu'en fait, les auteurs de la crise, c'est d'abord eux-mêmes, même si, de temps en temps, il y a des reproches à faire à Kinshasa en termes d'immigration. Il y a également l'organisation des élections au niveau provincial et local. Ça, c'est une solution qui ne vaut pas seulement pour la province de l'Équateur, mais qui vaut également pour toutes les provinces. Il me semble bien que cette élection ne semble pas être une priorité, alors qu'elle devait permettre, évidemment, d'achever le processus électoral et de consacrer une démocratie locale, parce que pour le moment, la démocratie dont on nous parle, c'est une démocratie d'en haut. Il y a également la réforme de la justice. Il me semble bien que les prestations de l'appareil judiciaire sont de temps en temps contestées, leurs décisions sont contestées, et donc il faudra, à mon avis, un certain effort de ce côté-là. Mais je crois qu'il y a aussi l'acceptation par l'AMP, donc par la majorité, d'une logique, une logique qui veut qu'une province qui a gagné les élections, donc que quand une province a été gagnée par l'opposition, eh bien que ce soit l'opposition qui gère celle-ci. Une telle approche pourrait faire progresser les choses, parce que quand on se rend compte que les élections ont eu lieu dans une province et que c'est l'opposition qui a gagné, mais que, paradoxalement, après les élections, donc après l'élection du gouverneur, eh bien, la majorité bascule, ça pose également un problème. Il faudra donc l'acceptation par les partis que Celui qui a gagné les élections, c'est bien celui qui doit gérer.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Fabien Mungunza, nous sommes dans la partie solution. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia dans la province orientale.
Kassamba Wanango, de Bounia dans le district de l'Ituri, en province orientale. Ce qui se passe à l'Équateur est la conséquence d'une alliance contre la nature scellée en 2009 entre les gens aux idéologies hétéroclites et c'est pour les besoins de la cause. Au grand mot, grand remède, que le président de la République puisse dissoudre cette assemblée qui d'ailleurs est illégale selon la constitution de la République démocratique du Congo. Quand un arbre tombe, c'est principe, n'est-ce pas?
Réaction Fabien Mungunza. Faut-il dissoudre l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour sortir de cette crise?
Non, madame, on ne mesure pas les conséquences que pourront avoir, n'est-ce pas, un acte pareil. Un acte pareil va engendrer des conséquences très, très graves. La situation de l'Assemblée provinciale de l'Équateur n'est pas particulière. Si le mandat est dépassé pour l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il est également dépassé pour toutes les autres assemblées. Je voudrais dire simplement que...
Au moins dans les autres assemblées, les plénières se tiennent.
Oui, mais chez nous, l'Assemblée ne fonctionne pas par la volonté, comme j'ai dit, du ministre de l'Intérieur, de ses acolytes, qui sont en province. Je vous dis par exemple pour ce qui est de bicéphalisme, madame. Mais c'est un problème qui n'existe pas, c'est un faux problème. Il a été décidé dans un conseil des ministres présidé par les chefs de l'État qu'il était important de mettre en pratique les dispositions légales qui frappent les députés qui changent de parti politique en cours de mandat. Le président qui avait jusque-là présidé au destiné de l'Assemblée de l'Équateur et a changé de parti, il était élu MLC. Il est devenu ADH. Automatiquement, il y tombait. On est passé à l'élection de nouveau président. Il est le président Ibambe aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous proposez comme solution, Monsieur Mungunza?
L'arrêt a été rendu, mais non exécuté parce que l'Assemblée provinciale a saisi la Cour suprême par un recours en annulation.
Monsieur Mungunza.
Et le greffier principal de la Cour d'appel de Mbandaka l'a écrit clairement dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale pour dire que le problème ayant été transmis à la Cour suprême, cet arrêt-là, dont se prévaut M. Mboyo, ne peut pas être exécuté.
Monsieur Mungunza, s'il vous plaît.
Tout à fait, normalement et légalement, il n'y a qu'un seul bureau à la tête de l'Assemblée provinciale.
Monsieur Mungunza, nous sommes en train de parler des solutions. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour sortir de cette crise? Apparemment, on n'arrive pas à se comprendre avec Fabien Mungunza. Gilbert Katsingé, quelles sont les pistes de solutions pour vous pour sortir de cette crise?
Oui, merci beaucoup, madame. Je crois que les solutions, il y en a. Il y en a qui sont même à portée de notre main. Je commence par dire d'abord qu'il ne faut pas corriger une erreur par une autre. On ne peut pas demander au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée provinciale parce que les conditions ne sont pas réunies. La loi dit, la loi sur la dissolution des provinces telle que modifiée à ce jour, dit qu'il faut qu'il y ait une crise grave et persistante, crise politique. Et elle définit les conditions. Parmi les conditions, celles qui ressemblent un peu à la situation de l'Équateur, ça aurait été lorsqu'elle ne s'est pas réunie pendant une session, faute de quorum. Or, ici, ce n'est pas un problème de quorum. C'est un problème qui n'est pas encore prévu par la loi. Donc la loi est déjà lacunaire à ce côté-là. Mmh. Alors je pense que la solution serait, d'abord pour ce qui concerne la lettre que le ministre a écrite, eh bien c'est tout à fait évident qu'elle a été induite en erreur. Il faut qu'il la retire tout simplement, qu'il laisse l'intérim conformément à tous les principes de droit au vice-gouverneur. Ça, vraiment, ça ne se discute pas. Et la deuxième solution, par rapport à l'Assemblée provinciale, je crois qu'il est temps que les institutions politiques nationales essaye de faire pression sur l'Assemblée nationale pour que la loi qui fixe, qui organise, qu'est-ce qu'on dit, la loi de programmation, hein, de découpage territorial, qui est déjà discutée au Sénat. Il y a un projet qui prévoit que dès que la loi est adoptée, dès qu'elle est promulguée, on va nommer un haut commissaire, des hauts commissaires pour chaque nouvelle province, pour essayer d'éclater l'Assemblée provinciale et l'Assemblée, les députés provinciaux, comme à l'Équateur, il y aura 4 districts, je crois, eh bien, les députés vont éclater, chaque groupe de députés va rentrer dans sa province, qui est aujourd'hui district, eh bien, là-bas, les députés vont voter leur gouverneur, ils vont, pendant presque une année, ils seront en train de construire les infrastructures. Je crois que ça va résoudre le problème. Et la loi est déjà très avancée, elle est sur la table de l'Assemblée nationale. Si on la vote en quelques jours, on nomme les hauts commissaires, eh bien, cette Assemblée va éclater en plusieurs assemblées provinciales, élire le gouverneur pour chaque nouvelle province, et la solution sera trouvée.
Alors, Maître Gilbert, on prend pour vous cette autre réaction qui nous vient de Mbandaka, à l'Équateur, sur les solutions pour sortir de cette crise.
Henri Bikoko, j'habite la ville de Mbandaka. Pour décrypter la situation qui se passe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il faut que la Cour suprême de justice puisse rendre son arrêt sur l'affaire qui oppose l'ancien vice-président Richard Mboyo et le bureau Ibambe. Car cet arrêt pourrait résoudre les problèmes de deux camps.
Alors, c'est la Cour suprême de justice qui peut débloquer cette situation.
Oui, ce sera une solution provisoire parce qu'il y a même des arrêts qu'on exécute difficilement. Mais si dans la semaine qui va suivre, l'Assemblée nationale vote la loi et que dans les 10 jours qui vont suivre, elle est promulguée, on nomme les hauts commissaires, eh bien, l'Assemblée va éclater. C'est parmi les révélations. Je me souviens même qu'il y a un groupe de députés de la Mongala qui avait refusé de siéger parce qu'ils voulaient en fait leur province déjà à l'époque. Mais maintenant que l'occasion est là, je crois qu'il faut que...
Alors en conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
D'accélérer la mise en œuvre de la décentralisation soit traduite dans les actes par le gouvernement central. Et donc en conclusion, je pense que pour la province de l'Équateur, il faut des solutions radicales, il faut vraiment accélérer la mise en œuvre de la décentralisation comme décidé à la conférence des gouverneurs de la fois passée à Kananga. Et donc, ce sera la solution pour mettre fin à la crise à l'Équateur.
Merci Fabien Mungunza, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, madame.
Alors, quelles sont les solutions que vous proposez pour sortir de cette crise? Vous allez aussi en profiter pour conclure parce qu'il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission.
Oui, madame, je disais donc que le bicéphalisme à la tête de l'Assemblée est un faux problème.
Vous nous avez déjà dit ça, on a besoin de solutions.
Oui, la solution, c'est rapidement appliquer la loi en cette matière, faire en sorte que l'élection des nouveaux gouverneurs se fasse rapidement, tout en ayant au préalable installé M. Mokako dans ses droits. Et très rapidement, les derniers acteurs du réseau en place, qui fait tout pour ne pas perdre ses intérêts très sordides, va disparaître. Dès lors, la situation va être décantée et l'Équateur pourra vivre en paix. Et je crois que également le ministre de l'Intérieur, là, n'a plus la confiance de tout le monde. Il doit démissionner, sinon pas être révoqué par les chefs de l'État.
On considère cela comme votre conclusion?
Oui, madame.
Merci.
Il y a encore du temps, je peux encore ajouter.
Non, allez-y, c'est le moment d'ajouter. On n'a plus beaucoup de temps. Si vous avez ajouté, c'est maintenant.
Oui, je voudrais dire encore qu'il n'y a qu'un seul bureau légitime et légal, c'est le bureau Ibambe.
Merci, Fabien.
Oui, madame.
Merci, Fabien. On n'a plus beaucoup de temps. Félicien, professeur Félicien Kavamba, votre conclusion.
Oui, ma conclusion, c'est qu'il faut absolument achever le processus électoral. Il est absolument anormal que le processus électoral se limite uniquement au niveau national. Mais en plus, il faut absolument aller vers des découpages territoriaux. Il me semble qu'une province comme l'Équateur, eh bien, pour cette province, les découpages territoriaux seraient, à mon avis, une solution très durable.
Merci, professeur Félicien Kabamba. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Guy Maté, assisté de Samuel Kachak et Alain Rung, sous la supervision de Julien Niamoni, qui nous ont aidés à préparer et réaliser cette émission. Merci à Alain Goy, qui était à la technique, au micro, Kélin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet, www.radioocapi.net. Rediffusion demain, 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.